Bonjour et merci de votre présence assidue et chaleureuse et enthousiaste. Je suis encore de bonne humeur, mais j'approche vers la fin de ce moment de déprime où on a tellement été bien ensemble qu'on est presque impatient d'avoir une année de plus pour recommencer. Voilà, on dit souvent qu'il va être soulagé, que ça se termine. Non, c'est vrai que je suis un peu fatigué, mais finalement j'aimerais encore passer du temps, rester un petit peu en dehors du monde réel et continuer à avoir des auteurs aussi passionnants et sympathiques que vous tous. Robin Homme, évidemment, notre marraine, que j'ai tenu à avoir sur ce café littéraire, bien qu'elle ne soit pas tout à fait dans le thème, mais voilà, on voulait se faire plaisir avant qu'elle reparte, lui donner encore une intervention de plus, mais on trouvera quand même un petit prétexte, vous verrez comment je peux raccrocher la situation de certains de ces personnages au mercenariat. Ce n'est pas si loin, finalement. Et puis, de la même façon, Maya Mazorek, on l'adore, alors... Ces personnages ne sont pas tout à fait des mercenaires non plus, on est vraiment un peu au limite du thème, mais quand même, on verra qu'ils auraient pu l'être, ils ne sont pas payés, et finalement c'est quand même des snipers. Voilà. Et puis on en a d'autres qui sont aussi des personnages qui sont dans une quête et une mission, mais c'est juste parce qu'on les paye pas finalement, parce que la notion de mercenaire, généralement, c'est bien la rétribution, c'est le tueur à gage. Mais parfois, il y a les tueurs sans gage, comme aurait dit un regretté écrivain britannique qui n'était pas du domaine de l'imaginaire, mais néanmoins bien talentueux. Alors, par qui commencer la femme à lâche, Justine Niaugret, qui, son kiff, comme elle le dit, c'est tirer à l'arbalète. Et pourtant, à la voir, on n'imaginerait pas. Finalement, comment une jeune fille souriante, sympathique, qui finalement ne ferait peur à personne la nuit, a-t-elle pu imaginer un personnage aussi redoutable que votre héroïne, celle qui vous a quand même valu, pour un premier roman, excusez du peu, le Grand Prix de l'imaginaire et surtout la consécration d'un auteur de fantasy, le Prix Imaginal.
Déjà, merci beaucoup. Je pense que c'est assez difficile à expliquer. Je pense que c'est un trait de caractère, surtout une sorte de brutalité quelconque, je ne sais pas.
Vraiment ?
D'accord. Oui.
Il était immobile au milieu des gens et tenait son cheval par la bride. Car il avait un cheval, vous voyez. Une rosse infâme au cul tatoué de cicatrices roses et boursouflées. De longues traces comme d'un fouet cinglé si fort que la chair avait été ouverte. La bête portait la tête basse, le nez morveux, les jambes et la bouche griffées par la poussière dure du chemin. Homme, chose ou accident, lui avait coupé la queue, et il restait là, immobile et tout escoué, le moignon encore rougi. Il faisait un bruit de forge en respirant cet animal. On l'entendait au milieu des voix et des talons de fer mâchant le chemin. Il avait posé son sabot de travers à la manière de ces bêtes, quand elles veulent se reposer, et la jambe au-dessus de ce pied tremblait, comme la main d'un vieux qu'on laisse près du feu pour ne pas qu'il crève. Et l'homme, qui allait avec tout ce qui était assorti, a l'air de victoire que portait... Pardon. Et l'homme qui allait avec était tout assorti à l'air de victoire que portait son ombre. Son visage faisait mal à voir, tant il était maigre, tant ses dents sortaient d'une bouche taillée par un mauvais possier, tant la chair s'était resserrée autour de ses os impossibles à déloger. Les tendons pointaient de son cou, cordage tiré d'une carcasse de navire, et il avait la tête en avant à la façon des myopes ou des oiseaux imbéciles des basse-cours. Ses mains étaient aussi noires que celles d'un charbonnier, crasseuses jusqu'au poignet, presque roses au-delà. Chien le regarda mieux, parce que ce mendiant-ci avait une monture, certes, mais aussi parce qu'il put un désespoir qu'elle ne connaissait pas. Même les blessés sur les champs de bataille, crevant dans leurs jus et leurs humeurs, avaient encore une étincelle dans le fond des yeux, au moins de douleur, parfois de rage, mais cela les habitait même quand il ne restait rien à espérer. Cet homme, lui, avait un regard blanc, celui exact et figé des statues d'église. Ils étaient bleus, ses yeux, aussi bleus que les iris d'eau, et ne devait pas voir mieux que ses fleurs. Il était maigre comme un chat revenu malheureux de ses amours, pelé, des trous dans les cheveux, il fallait que chien y replonge les yeux pour finir par comprendre. Pour tout vêtement, il avait une chemise de lin qu'un paysan aurait pu porter, une chemise simple, épaisse et sale, et des choses tout aussi usées et anonymes, et pourtant, une force sourdée de lui, qu'on ne sentait pas dans les mains et les bras des passants qui marchaient sans son souci. Et quand chien vilait la ceinture, elle saisit vraiment. Le baudrier de cuir épais, fort, un cuir de basane foncé par le temps et les pluies, plié par le poids des lames qu'il portait autrefois. Elle n'y était plus une seule, mais il avait toujours cette ceinture de guerre tenant son habit, et ses mains raidies de crasse, et ce cheval qui avait dû savoir tuer autant que son maître. C'était un chevalier sifflé, et le rond et bourriflé dans ses cheveux trop longs montrait une ancienne tonsure. Alors fit Bréhir en le montrant de la main, comme si elles étaient au spectacle. « Salut donc ton premier croisé. Quel portrait ? Un homme de Dieu ? Un mercenaire ?»
Merci. Je suis désolée, je suis assez émue, c'est la première fois qu'on... Enfin, il est tout neuf, il a deux jours ce livre. Donc,
je le découvre en le lisant, je l'ai reçu tout à l'heure.
Mais oui, enfin, Mordre, le bouclier parle beaucoup du mercenariat et de la guerre, en fait, du métier de la guerre. Et je pense que c'est assez difficile dans... Enfin, si on veut rester d'un point de vue assez réaliste, point de vue humain, d'en faire des gens joyeux, propres, agréables et sains dans leur tête, en fait. Je dirais comme ça.
Eh bien, on va trouver un autre héros, un vrai mercenaire, celui-là, sans foi, sans loi et sans hésitation. L'homme, le personnage central de Gagner la guerre, qui vous a valu coup sur coup, Jean-Philippe Jabourski en 2009, d'être d'abord le coup de cœur du festival, et vous êtes toujours de coup de cœur, vous le savez bien, et puis par ailleurs le prix Imaginal que vous avez aussi emporté avec brio. Alors, parlez-nous un peu de votre personnage principal. Comment, quand on est un honorable agrégé de lettres, on choisit de faire de son héros principal, de celui qui va être le narrateur, qui va porter la sympathie du lectorat et du public, un tueur à gages, sans foi ni loi?
Alors, Benvenuto, il a une naissance un peu particulière. Avant d'être le narrateur et le personnage principal du roman, il a été le narrateur et le personnage principal d'une nouvelle. Je construisais un recueil de nouvelles qui était fondé sur l'exploitation de toute une série d'archétypes. Le prêtre, le paladin, la paysanne, et à un moment donné, il me fallait aborder le truand. J'ai écrit la première page, et je ne savais pas où j'allais. J'ai arrêté, et j'ai perdu la première page sur un de mes fichiers d'ordinateur, mon disque dur a grillé, Benvenuto est mort. Et puis, il s'est trouvé que un an après, j'ai découvert un peu par hasard, parce que je suis quelqu'un de très très organisé, j'ai découvert un peu par hasard que j'avais fait une sauvegarde dans disque dur. Et donc, un peu comme dans une malle au fond d'un grenier, on découvre des tas de vieux jouets, j'ai retrouvé des tas de vieux fichiers. Et dedans, il y avait Benvenuto. Et j'ai retrouvé cette première page que j'avais complètement oubliée. Et il m'a parlé. Vraiment, la voix m'a parlé. Je me suis dit, voilà un personnage, il faut en faire quelqu'un. Alors, sa voix, c'était pour moi celui d'un personnage de roman noir. Il fallait donc en faire un homme à vendre. Et du coup, son statut de tueur à gages, puisque c'est un tueur à gages qui a eu une formation militaire de mercenaire, est devenu une évidence. Mais d'une certaine façon, il a joué des coudes pour s'imposer en tant que bagage. Donc, ça n'est pas de ma faute si c'est quelqu'un d'aussi peu recommandable, c'est de la sienne.
Sans foi ni loi, les auteurs aussi, hein, pas que les personnages. Bon, vous faire pardonner, Jean-Philippe Jaworski, vous êtes condamné à nous lire un extrait.
Alors, je vais vous lire quelque chose de pas très intéressant. C'est la matinée ordinaire du mercenaire qui, un peu par hasard, croise deux autres mercenaires. Le lendemain de ma biture, j'étais dans un état lamentable. J'avais un tambourin au fond de la calebasse, les cheveux qui tiraient comme si on les avait cardés, la bouche plus sèche qu'un coffre à sel. J'eus la tentation d'y apporter un remède de soldat, celui qu'on trouve au fond d'un flacon. Il me fallut faire un sacré effort pour arrêter les dégâts. Je savais bien que l'alcool serait juste bon à entretenir les pleurnicheries et à me faire trembler la main. Il fallait redresser la barre avant que je ne me laisse glisser. Embrasser une carrière de poivreau ne me rendrait pas ma gueule. Il faudrait bien que j'assume mon ravalement de façade. Et le plus tôt serait mieux. Je me sanglais dans un vieux buffle et je descendis aux cuisines. Je m'y fis servir un petit déjeuner fastueux. Œufs crus, pichets de lait et bouillon de légumes. Ça ne ferait pas de miracle, mais j'espérais que ça me permettrait d'ouvrir des négociations avec mon foie. Alors que je savourais ce festin, je vis pour la première fois les deux hommes recrutés par Sassanos. Ils étaient assis dans un coin, bien sagement, et mastiquaient en silence. Vêtus de pourpoints sudaliens plutôt modestes, ils avaient la touche de deux ours déguisés en lavandière. Tout en eux criait la barbarie. Ils étaient grands, avec des yeux très clairs, et portaient des spirales bleues tatouées sur le visage. Ils avaient des cheveux longs, sauf sur la nuque, bizarrement rasés, ce qui leur donnait une physionomie franchement stupide. Clarissima avait raison. Le plus bovin des deux était absolument colossal, et il affichait une expression qui frisait l'imbécilité. Peut-être ses cicatrices accentuaient-elles son air bestial. Une de ses arcades sourcilières étant enfoncée, il gardait un œil à moitié fermé. Il n'était plus de la première jeunesse. Le monstre avait sans doute quelques années de plus que moi. Son compagnon avait des cheveux blancs. Mais en dépit de leur attitude placide, il émanait d'eux une impression de force sauvage, à peine modérée, qui maintenait à distance tout le personnel des cuisines. Je me demandais où le sorcier avait été dénicher ses joyaux bruts.
Charme. C'est un métier agrégé de lettres qui nécessite de faire appel à beaucoup de délicatesse, comme vous pouvez vous en rendre compte. On se demande parfois si les personnages ne détaillent pas sur les auteurs, ou si les auteurs finalement ne sont pas les personnages, que seul un manque de motivation, voire de courage, a amené à se laisser aller, à vivre la vie dont ils rêvaient. Mais bon, passons, laissons Benvenuto sévir, on prendra tout à l'heure le plaisir d'en écouter encore un passage. Pire, j'espère. Vous riez, Mazurette, mais il n'y a pas de quoi quand on écrit les livres que vous écrivez. Alors je passerai sur vos livres plus lestes, qui ne sont pas des livres d'imaginaire, mais en revanche, je voudrais vous parler de celui qui a eu le prix Imaginal des lycéens. Si ça avait été non pas des lycéens, mais des enseignants qui avaient voté, je peux vous dire que ce prix, vous ne l'auriez jamais eu. Parce que quand même, vous n'allez pas de main forte, vous nous présentez deux jeunes qui sont vos héros. Et ces deux jeunes, alors la seule excuse qu'on peut leur trouver, c'est qu'ils ne sont pas rémunérés, ils font ça juste pour le plaisir. En gros, leur boulot, ou celui qui se sont fixés, ils tuent les adultes.
Oui, ce sont des tueurs de vieux, mais j'aime bien cette thématique là des mercenaires, parce qu'en fait, donc dans la fantasy, on se tue beaucoup, on se massacre beaucoup. Donc ensuite, on peut dire peut-être que les auteurs viennent entretenir leur fantasme. Et que c'est mieux qu'on écrive plutôt qu'on agisse. Donc il y a toujours plein de motifs de tuer les gens. Il y en a qui sont plus nobles que d'autres, on a une espèce de hiérarchie. Donc moi j'ai des jeunes qui tuent pour des idées politiques, donc c'est un peu particulier. Mais dans mon premier livre de fantasy, ils tuaient pour des raisons religieuses. On accepte pas mal en fait dans les histoires que les soldats tuent pour l'idée de la patrie, alors qu'en fait ils sont rémunérés. Et puis finalement, en fait, en bas de l'échelle, il y a les mercenaires, parce qu'ensuite, je ne sais pas si c'est que l'argent est sale en soi, ou notre rapport avec l'argent n'est pas si facile, mais ça fait des personnages qui, je crois, comme on vient de l'entendre deux fois, ne sont pas forcément des personnages très très sympathiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça interpelle quand même, on accepte qu'on tue pour plein de raisons dans la fantasy, mais pour l'argent, c'est toujours un peu plus compliqué.
C'est comme faire l'amour, on ne peut pas le faire pour l'argent, mais en revanche, par arriviste, pour faire un beau mariage, pour progresser à la société, pas de problème. L'argent, finalement, ne pose problème qu'à ceux qui ne font pas partie des classes privilégiées.
Bien sûr, mais on pourrait imaginer des mercenaires qui veulent gagner de l'argent pour entretenir leur famille, pour ouvrir un orphelinat, et des soldats qui rentrent dans l'armée seulement pour la paix, ce qui, à mon avis, quand même, devait se faire. Et c'est marrant parce que c'est aussi une thématique très actuelle qu'on peut trouver dans la guerre en Irak ou même beaucoup plus proche de nous, qui sont aujourd'hui le fait que les, les armées et les gouvernements payent des sociétés de mercenariat privés pour faire nos salaires à nos places et pour cacher le nombre de victimes dans les conflits actuels.
Finalement, écrire de la science-fiction, c'est nous ramener, ou de la fantasy, c'est nous ramener aussi à un regard sur le présent. On dit quelle horreur ce personnage Benvenuto, c'est affreux, c'est jeune, etc. Or, c'est ce qui se passe sur beaucoup d'endroits de la planète, y compris organisé par nous-mêmes.
Exactement, je suis sûre qu'il existe pas si loin de nous.
Comment se fait-il qu'on ne vous ait pas laissé mourir à la naissance? Elle ne s'attendait pas à une question aussi directe et l'espace d'un instant, elle resta muette. Si elle disait la vérité, quels ennuis attirerait-elle sur ses parents? Son père avait enfreint toutes les règles en suivant la sage-femme et en rapportant le nourrisson chez lui au lieu de le laisser à la merci des bêtes sauvages et des intempéries. Elle prit son souffle et désarmé. Des défauts sont apparus peu à peu. Il n'était pas complètement visible quand je suis né. Maujoin poussa un bref grognement d'incrédulité. Un autre marchand s'agita dans son fauteuil, gêné pour la jeune fille. « Comprenez-vous les termes de l'emploi proposé ?» demanda Maujoin d'un ton brutal. « Vos parents acceptent-ils le fait qu'après votre départ avec les dragons, nous ne garantissons pas votre sécurité, ni même votre retour ?» Elle s'étonna elle-même du ton calme avec lequel elle répondit. « Ils ont signé les papiers devant vous. Ils comprennent. Et plus important, je comprends. Je suis assez âgé pour m'engager moi-même. » Comme Maujoin, après un hochement de tête sec, se laissait aller contre le dossier de son fauteuil, elle ajouta « Mais j'aimerais savoir plus précisément en quoi consiste mon travail et notre mission. » Il fronça les sourcils. « N'avez-vous donc pas lu le contrat qu'on vous a remis, jeune fille ? » Tout y est expliqué clairement. Les dragons demandent que des humains les escortent jusqu'à leur nouveau lieu de résidence en amont. Vous aurez la charge d'une ou plusieurs de ces créatures, et selon leurs désirs ou vos ordres, vous les aiderez à gagner un site plus approprié pour eux. Vous subviendrez à leurs besoins en chassant et en pêchant, et vous resterez là où ils s'établiront, en attendant qu'ils se suffisent à eux-mêmes ou qu'ils n'aient plus besoin de vous d'aucune autre manière. » Elle déclara d'une voix froide, « Donc, si mon ou mes dragons meurent, je peux retourner chez moi ?» Maujoin se redressa brusquement. « Ce n'est pas l'attitude que nous recherchons. Nous attendons de vous que vous fassiez votre possible pour respecter le contrat entre les marchands et la dragonne Tintaglia. Vous avez pour tâche d'aider le ou les dragons à votre charge à trouver un site où s'installer et devenir autosuffisant. » Il se déplaça légèrement sur son siège et ajouta comme à contre-cœur, « Nous n'en faisons pas mystère. Nous espérons que les dragons vous conduiront à la cité des anciens, dont ils affirment garder le souvenir qu'elle s'ingra. » Elle retint ses autres questions et demanda, « Avons-nous une destination précise? A-t-on reconnu le trajet? Et sait-on combien de temps nous prendra le voyage ?» À l'expression de Maujoin, on eût cru qu'il avait croqué un aliment répugnant et qu'il eût aimé le recracher. Enfin, il répondit de manière évasive, « Les dragons paraissent posséder du souvenir atavique de la zone en question et ils seront vos meilleurs guides pour parvenir à un site qui leur convienne. L'antique cité sera peut-être votre destination ultime, mais il est tout à fait possible que vous découvriez un autre site plus approprié. » « Je vois, » dit-elle laconique. Elle voyait, en effet. Son père avait raison. Il ne s'agissait pas d'une émigration mais d'un exil, du bannissement à la fois de dragons gênants et de toutes sortes d'inadaptés de la société. « Vous voyez ? Parfait !» s'exclama aussitôt l'autre avec soulagement. « Nous sommes donc d'accord. » Il prit un tampon sur la table et en frappa les documents. « Une fois que vous aurez signé, vous serez officiellement embauché. » Elle est payée. Bon, c'est pas une tueuse à gages. On ne l'en charge pas, mais à part ça, finalement, c'est presque une mercenaire, votre personnage.
To some extent, yes, certainly some of the other keepers, when they leave Trahog, are definitely doing it for the money, to give the money to their families, or to build a fortune for themselves if they return. But for Tamara, I think it is more about, she is already an exile in her home city. So she may as well go be in exile where she has a chance of building something for herself. For her, it is not the money so much as the chance to move away from from being a pariah to perhaps building a new life. But for some of the other young keepers on the expedition, it is about the money, about the chance to have something of their own.
Dans une certaine mesure, oui. Certains des autres gardiens, pour leur part, quand ils acceptent leur mission, ils le font pour l'argent, soit pour l'envoyer à leur famille, soit simplement pour se construire une fortune pour leur retour s'ils reviennent. En ce qui concerne Timara, elle est déjà une exilée dans sa propre ville, donc autant partir dans un autre exil où elle pourra construire quelque chose pour elle-même. Donc pour elle, ce n'est pas tant une question d'argent que la chance de s'éloigner donc de l'endroit où elle est déjà plus ou moins une paria, et pour avoir l'occasion de se construire une vie nouvelle. Mais pour d'autres, effectivement, c'est pour l'argent et pour la possibilité de construire quelque chose pour elle.
Jean-Philippe Jaworski, votre héros de Benvenuto, c'est pour l'argent ?
Ah oui, c'est pour l'argent. Hein. Puis c'est aussi parce qu'il a commencé un peu mal son existence, en fait. Il a commencé sa vie de façon un peu décalée. Vous avez pu comprendre tout à l'heure qu'il est un peu porté sur le cruchon, il essaie de se soigner, mais ça va pas très bien de ce côté-là. Et quand il était jeune, il jouait beaucoup. Il a gagné beaucoup d'argent, enfin il a perdu beaucoup d'argent plutôt. Tellement d'argent qu'il risquait de perdre aussi ses genoux. Donc il s'est transformé en voleur. Et à partir de ce moment-là, volé pour rembourser ses dettes, il a mis un doigt dans l'engrenage criminel. Et du coup, comme il est plutôt doué pour aller lui-même casser les genoux des autres, il est devenu un tueur. Alors il n'a absolument aucune morale, aucun scrupule. Il peut éprouver une certaine fascination pour des personnages qui ont du rayonnement, c'est le cas en particulier pour son patron, mais il s'agit alors d'attachements personnels, problématiques, qui ne répondent de toute façon à aucun principe autre que moi avant les autres.
Ce qu'on pourrait peut-être entendre, parce que finalement Benvenuto, en quelque sorte, se justifie en plus ou moins, parce qu'il assume aussi ce qu'il fait. Mais quand même, il essaie, comme tous les baratineurs, de se rendre sympathique. Alors vous qui n'êtes pas un baratineur, Jean-Philippe Jaworski, faites-nous parler d'un Benvenuto.
Quand il se justifie ?
Bien sûr.
Il faut que je retrouve le passage.
Oh, ben sinon, quand il affirme clairement ce qu'il fait, je vous laisse complètement choisir.
Quand il affirme ce qu'il fait, alors... Ah oui, tiens.
Vous vous rendez compte ? Il y a des écrivains, il n'y a pas de doute, ils ont écrit leur livre même parce que finalement, ils s'y retrouvent assez vite. Non, mais c'est important de le dire, parce que par les temps qui courent, dans d'autres littératures, ce qui est intéressant, c'est pas la personne qui signe le livre, mais c'est la personne qui l'a écrit.
Bon, ceci dit, il faut quand même que je retrouve le chapitre. Il y a 680 pages, il faut que je retrouve le passage. Mais oui,
sinon, on peut en trouver un autre.
Non, non, mais j'ai un petit dialogue avec son maître.
Il faut savoir que le patron de Curagage est quand même un des principaux responsables de cette ville un peu imaginaire qui ressemble quelque peu parfois à Venise. Parce que vous savez bien que quand on a vaincu un empire ennemi, ce qui est important, c'est le titre du livre, c'est évidemment de gagner la guerre. Gagner la guerre, ça se fait à l'interne. Comme dit Bendon de Leduto, quand il faut sortir les couteaux.
Alors, il s'agit d'un dialogue donc entre le vieux maître de Benvenuto qui jadis a essayé de lui enseigner la peinture et que Benvenuto a volé. Et puis Benvenuto, une fois qu'il est devenu un artiste reconnu, mais plutôt d'une autre forme de couteau que celui qui sert à peindre. Tu as quel âge maintenant, lâcha-t-il. 34 35 Tu as tué combien d'hommes? C'est bien pour ça que Ducatore t'a embauché et que ta tête est mise à prix, non? Et tu oses encore te draper dans ta pudibonderie pour juger ce que ta mère a fait dans cette maison? Que tu rejettes tout ce que je t'ai enseigné, la noblesse de l'art, passe encore. Mais tu sais bien que Carinita, la mère de Benvenuto, n'a pas été mon seul modèle. Des hommes nus, et même des cadavres. J'en ai dessiné et j'en ai fait dessiner. Tu crois peut-être que je les ai baisés ? Pour saisir l'humanité, il faut la connaître, Benvenuto. Quand je peins Clarissima Ducatore ou Ettore Sanguinella, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière les corsets, les bijoux, les busques et les justes au corps. J'ai besoin de cette science du corps pour saisir l'esprit. Seuls les ignorants confondent ce que ta mère a fait dans cet atelier avec de la prostitution. Elle s'est dévoilée, elle ne s'est pas livrée. Tuer des hommes pour de l'argent, c'est ça l'obscénité. Tu es bien mal placé pour jouer les censeurs. Ouais, que je réponds. N'empêche que l'oseille que vous recevez par la main droite, c'est celle que je touche par la main gauche. On a les mêmes clients, maestro. On palpe le même pactole. Les dividendes du trafic, les dépouilles de guerre, les héritages captés, les marchés véreux, les influences achetées. Vous ne vous salissez peut-être pas directement, mais vous n'êtes pas plus propre que moi. Alors, vos leçons d'essence, vous imaginez ce que j'en fais? Vous êtes comme moi, un homme à vendre, et c'est parce que vous avez adhéré à ce système que vous avez acheté ma mère. Ce sont mes œuvres que je vends, pas moi. Mon rayon, c'est plutôt les basses œuvres, mais à un détail près, vous voyez bien qu'on se ressemble. Des calembours, de l'esprit facile, tu refuses de parler vrai. Détrompez-vous, je suis très sérieux. Vous et moi, à quelques nuances près, on fait le même boulot. On est des domestiques, on s'occupe du service, et en échange, on profite des restes. Parce que tu considères que tout ce que réalisent nos élites, c'est le mal, et que travailler pour elles, c'est se rendre complice. Je dis simplement que vous et moi, on mange au même râtelier. Alors arrêtez de me les jouer et perds la vertu. Ils se servent de moi, c'est vrai. Ils m'utilisent pour construire leur image, pour étaler leur fortune et leurs prétentions, pour accroître leur rayonnement et pour bâtir leur postérité. Mais je ne suis pas seulement un instrument pour eux. Je leur offre aussi autre chose, un refuge, une sublimation, un objet qui dépasse le support matériel et sa valeur marchande, une ouverture sur une perception différente du monde, de ces hommes de pouvoir et d'argent. Je fais des contemplatifs. Grâce à l'art, je les rappelle à leur humanité, dans sa dimension la plus haute. Ils me paient, mais je les rachète. Vous n'êtes qu'un prétexte. C'est en admirant vos cartons et ceux de vos collègues que des esthètes ont organisé l'assassinat de Coccio Blattari. Je ne prétends pas réaliser des miracles, mais l'art forme la sensibilité. S'il n'empêche pas les crises, il les déplace sur un terrain plus figuré. Il incite à résoudre les conflits de manière plus symbolique. Il civilise. Vous avez vu ma gueule, maestro ? Ce sont des gens suprêmement civilisés qui m'ont arrangé. Vous savez, maestro, je me suis bel et bien consacré à l'art. L'art de quoi ? L'escrime, la guerre, des savoir-faire, des disciplines, je veux bien. Mais ce n'est pas de l'art. Tu ne peux pas confondre l'excitation du combat, le sentiment de puissance conféré par une victoire, avec le dépassement esthétique. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous vous êtes déjà battu en duel. Vous avez déjà liquidé une cible. La passe d'armes impeccable. Le meurtre net et sans bavure. Ce n'est pas seulement euphorisant. C'est élégant. C'est exactement comme la peinture. Il faut une vision d'ensemble. Il faut un geste naturel, travaillé et précis. C'est un art. C'est l'exécution.
C'est aussi un art de l'exécution, votre lecture sur Philippe Jablonski. C'est un texte assez fort et on ne va pas faire de commentaires supplémentaires. On va passer peut-être à une autre voie très différente, celle de Justine Niogré. Pourquoi avoir imaginé un personnage de mercenaire, ou plutôt un personnage de femme qui se bat porte sa hache et la met au service d'autres.
Je pense que déjà, j'avais besoin de la sortir de la communauté. C'est quelqu'un qui s'est elle-même érigée en paria, en fait, sans forcément s'en rendre compte. Elle est tout simplement incapable d'avoir une relation humaine avec qui que ce soit. Elle porte bien son nom, vraiment. Au début du premier tome, c'est un animal. Elle est sauvage. Donc je ne pouvais pas la mettre dans un système fonctionnant. Et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant dans le fait qu'elle soit mercenaire. C'est un personnage qui est très loin de l'humanité. Et en fait, en tant qu'auteur et en tant que lecteur, ça me paraît assez difficile d'apprivoiser ce personnage-là. Mais il y a quelque chose chez elle qui peut nous attacher, nous, à notre époque, avec nos façons de penser, etc. Et c'est le fait qu'elle soit mercenaire. C'est-à-dire que finalement, je trouve que le mercenaire est une figure extrêmement moderne. Il a un patron, mais son patron n'a pas le droit de vie et de mort sur lui. Il a des quêtes qu'on peut tout à fait comprendre, gagner de l'argent, entretenir sa famille, comme on l'a vu tout à l'heure. Des quêtes de colère aussi, qu'on comprend nous. Il y a quand même quand on parle d'une époque passée, il y a une énorme difficulté, par exemple, pour parler des Templiers, qui fonctionnaient très souvent en binôme, etc. C'est difficile en tant qu'auteur ou en tant que lecteur de se projeter dans quelqu'un qui fonctionne à deux, qui est prêt à tuer pour Dieu. Enfin, c'est des choses très, très, très complexes. Finalement, je pense que le mercenaire dans la période médiévale, c'est peut-être l'archétype ou le personnage qu'on comprend le mieux et le plus facilement.
Maya, vos personnages, vous, partent pour une quête. Alors bon, une quête urbaine et futuriste, sauvage, comme vos deux héros, dans votre monde, donc c'est le prix Imaginaire Délicien l'année dernière. Et puis, vos autres personnages dans votre bande fantasy, eux, c'est une quête religieuse pour laquelle ils partent. Finalement, eux, c'est pas l'argent qui les motive. C'est pour ça que vous êtes sur cette table ronde, mais ce ne sont pas des vrais mercenaires, vos héros.
Non, 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 ce sont toujours des idéalistes. C'est-à-dire que je conçois pas qu'on puisse... moi, tuer pour de l'argent. Je sais bien que beaucoup de personnes le font. Mais c'est vrai que moi, je me sentirais pas capable d'écrire ce genre de personnage. J'ai besoin de gens qui ont des motivations complètement différentes. Donc voilà, donc dans mes deux univers, effectivement, s'il y a quelque chose en commun, c'est que les gens qui tuent sont persuadés de le faire pour de très bonnes raisons. On est assez habitué à ce que des gens tuent au nom de Dieu, donc j'ai pas particulièrement expliqué ça dans le premier. Mais pour celui-ci, dans le dernier, comme on n'est pas vraiment habitué à ce qu'on tue, parce qu'on trouve que c'est une excellente idée d'éradiquer toutes les personnes de plus de 25 ans, effectivement, je passe une assez grosse partie du livre à justifier. Parce que pour moi, en tant qu'auteur, j'ai besoin de me justifier et parce que justement, je ne me sens pas capable d'écrire vraiment sur les vrais mercenaires.
Vous aussi, Robinov, vos personnages, alors bon, oui, là, mercenaires, on peut le dire, puisque quelque part, ils sont embauchés pour faire un boulot. Bon, il ne s'agit pas de tuer des gens, mais si on ne le dit pas, on sent bien dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, que finalement, si ces dragons disparaissaient, y compris définitivement, on se ferait une raison. Là aussi, vos personnages, au fur et à mesure de l'histoire, embauchés pour les mêmes raisons, pour de l'argent, pour partir loin d'une ville qui ne les accueille pas, qui ne les accepte pas, finalement, vos personnages, ils vont se différencier. Certains vont rester de vrais mercenaires, en quelque sorte, des gens qui sont payés pour un boulot et qui n'investissent pas, et d'autres vont peu à peu s'attacher à leur dragon. Même les personnages de ce genre peuvent changer de vie. On s'embauche pour de l'argent et on découvre qu'on est autrement. C'est ça aussi un peu ce que pensent vos personnages.
I think that in most of what I have read of mercenaries in fiction and in fact, what often happens is that they take money to do a job, but they may develop intense loyalties to their fellow mercenaries, to the people who are the only ones really who will care if they are killed. Maybe they only care because it means there is one less sword or gun on their side, but they do care about keeping you alive. And so within this company of outcast humans and outcast dragons, alliances will form that are about survival. And loyalties will be formed that are, at least initially, more about survival than friendships. It's an interesting setup for a story, because in these when the bond of loyalty is what is keeping you alive and moving you forward, if you have someone within that net who does not share the loyalties, then it's like a weak spot in something that is spinning, and it may destroy it all.
Je crois que dans la plupart des comptes rendus que j'ai lus sur les mercenaires, qu'il s'agisse de récits fictifs ou de véritables faits, ce qui se passe effectivement, on a des gens qui prennent de l'argent pour effectuer un travail, mais ils développent souvent une loyauté intense envers leurs compagnons mercenaires, qui sont finalement les seuls qui se soucient de savoir si eux-mêmes vont mourir ou pas. Alors peut-être que ça signifie qu'il y aura une épée de moins ou une arme à feu de moins de leur côté pour les maintenir en vie. Mais je pense que c'est malgré tout, cette loyauté se développe. Dans la Cité des Anciens, on a une compagnie d'exilés, à la fois exilés dragons et exilés humains. Et il y a d'abord des alliances qui se forment, et ces alliances sont une question de survie. Mais des loyautés se développent au fur et à mesure. Initialement, ces loyautés concernent plus une question de survie que de réelle amitié. Et je pensais que c'était une étape intéressante pour démarrer une histoire, quand ces liens, quand ces loyautés peuvent être la seule chose qui vous maintienne en vie et qui vous permette d'avancer sur votre voie. Et si quelqu'un, à travers la chaîne, n'éprouve pas cette loyauté, alors elle devient comme un maillon faible et qui risque de détruire l'ensemble.
Comme on approche de la fin de ce café littéraire dans quelques minutes et qu'on donnera la parole pour terminer ensemble à Jean-Philippe Jabourski, qui est au cœur du thème, hein, et c'est le cœur en tout cas de son livre. Le personnage est un authentique mercenaire. J'en profite pour remercier Lionel Davous qui avait été oublié, de faire une erreur sur 4 jours, sur l'affiche, et qui a découvert à 10 qu'il devait au pied levé, sans avoir rien préparé, venir traduire en urgence au Magic Mirror. Le maire hier remerciait, je vais le faire rougir, il commence, remerciait tous les traducteurs, il me disait à l'oreille, là je peux le dire, il me disait à l'oreille, il est extraordinaire Lionel Davous, il est vraiment capable de traduire en direct n'importe comment et avec une vraie passion. J'en profite pour remercier Lionel qui rougit de plus en plus, Hélène Burry, Sylvie Miller et Anaïs Gouinard, nos 4 traducteurs. Au nom des 4, merci à toi Lionel. Jean-Philippe, on va pas se quitter sans quitter Don Benvenuto. On va pas en tout cas se quitter sans quitter Gagner la guerre. Et on va pas se quitter sans inciter les derniers, je cherche les coupables, qui n'ont pas encore acheté Gagner la guerre, éventuellement l'édition de poche, à découvrir un roman, franchement, qui mérite la lecture.
Voilà, une phase cruciale, la négociation du mercenaire avec son patron. Surtout quand le patron et le mercenaire se sont fait mutuellement des craintes. Sais-tu comment les crimes sont jugés en Muromagne ? Poursuivit-il lentement. Les barbares des tribus ignorent tout de nos subtilités judiciaires. Quand il faut rendre la justice, on dit qu'ils tiennent une assemblée d'hommes libres, parmi lesquels ils désignent 2 ou 3 sages, souvent des chefs ou des vieillards. Ces hommes sont chargés de rappeler la coutume et de fixer le prix du sang. Le prix du sang, c'est la somme d'argent que le coupable doit verser à la famille de sa victime. Si l'amende est versée, l'affaire est réglée. Si le condamné est incapable de payer, alors la famille de la victime a le droit de le tuer, de brûler sa maison, de réduire les siens en esclavage. Un système bien primitif, mais pas si éloigné de nos vendettas. Ne trouves-tu pas? Je vais te proposer un arrangement, Benvenuto. Verse-moi, sinon le prix du sang, du moins une compensation, et nous serons quittes. Refuse, et tu ne sortiras pas vivant de ces appartements. Vous causez d'un choix. Mais allez-y, annoncez votre prix. Prends garde, Benvenuto, c'est un arrêt, pas un marchandage. Je ne négocierai pas. De toute façon, dans ma position, j'aurais pas pu gratter grand-chose. Arrêtez de me faire lanterner, dites-moi combien j'en bac. Pour faire un chiffre rond, je fixe ton amende à 200 000 florins. Je me fendis la pêche, mais je ne le trouvais pas spécialement drôle. Butez-moi tout de suite, grommelai-je. Ce sera une autre manière de vous payer ma tête. Tu n'es donc pas en mesure de verser ton écho. Vous croyez peut-être que je vais sortir 200 000 florins de mon chapeau? Même si mes fonds n'étaient pas sous séquestre, j'arriverai à peine à rassembler un dixième de cette somme. Et j'ai pourtant un joli petit pactole aux frais. Vous savez aussi bien que moi que la plupart des familles patriciennes pourraient même pas vous avancer un montant pareil. Je croyais pourtant que tu étais plein de ressources. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Me pousser à bout? Que je dégaine pour donner le signal de la tuerie? Ce serait regrettable d'arriver là. Tu y perdrais la vie, et moi, 200 000 florins. Je comprends plus où vous voulez en venir. Essayons de considérer le problème sous un angle différent. Veux-tu? Tu ne possèdes pas ces 200 000 florins, c'est entendu. Moi, en revanche, je les ai. C'est un bon point de départ. Ne trouves-tu pas? J'ai à ma disposition la somme dont tu as besoin pour rembourser la dette que tu as contractée auprès de moi. Il me souriait à nouveau avec affabilité, mais je discernais la cruauté pétillant au fond de sa prunelle. Je commençais à saisir ce qu'il avait en tête, et je me sentis tiraillé entre deux émotions violemment contradictoires. Je fus soulevé par une puissante bouffée d'espoir, parce que je compris qu'il avait monté une combinaison où j'aurais encore de l'utilité si je restais vivant. En même temps, mes tripes se nouèrent d'appréhension, parce que je savais qu'il n'était pas homme à pardonner, et que l'usage qu'il comptait faire de moi serait peut-être pire que la mort. Si je vous suis bien, énonçai-je avec prudence, vous souhaitez que je m'endette auprès de vous pour vous rembourser? Pas du tout. C'était à son tour de rire, en sourdine, en retroussant ses lèvres bien dessinées sur un rictus de loup. Voyons, Benvenuto, tu me l'as dit à l'instant, où diable irais-tu chercher 200 000 florins? Cela ne ferait que remettre l'échéance et ne résoudrait rien. Non, j'ai une solution beaucoup plus simple. Je vais te payer. Je vais te payer cette somme comptant. Et comme tu me la dois, tu me la rétrocéderas aussitôt, ce qui remettra nos comptes à plat. Naturellement, ce n'est pas un cadeau. Sans doute réalises-tu qu'en raison du passif que tu as envers moi, je ne suis guère disposé à t'accorder la plus infime faveur. Ces 200 000 florins formeront tes honoraires pour une tâche que tu vas accomplir à mon service. Mes paumes devinrent moites. Un déluge de pièces se mit à dégringoler dans mon crâne, scintillante, musicale et mortelle. Le meurtre de Bucéphale Mastigia avait coûté 8 000 florins au Podesta. Mes tractations secrètes avec les représentants du chat, 2 000 florins supplémentaires. Soit dit en passant, j'étais loin d'avoir touché l'intégralité de la prime, puisqu'une partie avait été versée à la guilde. À Seferaïs, le total des rançons pour les 5 prisonniers de Marc, dont j'avais fait partie, s'était élevé à 100 000 florins. Et encore, cet argent avait-il été rassemblé par 4 familles fortunées,
avec la participation de fonds publics pour la libération du cofédérier Velodo Fruga. 200 000 florins, c'était exorbitant. Cela représentait quasiment un dixième de la dette du duc de Bromael auprès de la République. J'arrive même pas à imaginer ce que je vais devoir faire pour une galette pareille, marmonnai-je, la bouche asséchée. C'est très simple, répondit uniment Léonide Ducatore. Tu vas devenir un héros. Tu vas sauver la République et lui permettre de gagner la guerre.
Merci beaucoup Jean-Philippe Jaworski pour cet extrait. Merci à nos trois autres invités, en particulier Robinov. Et j'espère que ces mercenaires vous entraîneront sur le plaisir de lire, parce que finalement, c'est ce qui nous motive pendant toutes ces imaginales. Merci à tous.